La parole du jour avec le Père Willem.
Jésus, Dieu qui s'approche. Pour les chrétiens, Jésus de Nazareth est vraiment né de Dieu. Une étrange affirmation qui a des conséquences étonnantes. Si vous passez au musée du Louvre à Paris, allez donc faire un tour dans le département des peintures françaises du XVIIe siècle et allez contempler le Saint-Joseph Charpentier de Georges de la Tour, le peintre lorrain qui réalisa en 1643. Il avait juste 50 ans. Par le jeu des clairs obscurs, vous apprendrez tout de l'incarnation de Dieu en Jésus. L'enfant est là, déjà grand, qui tout à la fois observe et éclaire le travail de son père nourricier. Il regarde ce que fait l'homme et qu'il va devoir porter. Il regarde. C'est le bois de la croix qu'il devra porter, qui, sans aucun doute, le charpentier travaille. Il travaille ce bois qui meurtrira ses épaules et contribuera à sa mort. Cela, oui, il l'apprend de l'homme, mais il ne se contente pas de ce regard. Un regard de curiosité et de complicité. Il éclaire aussi, par la lumière parcimonieuse qu'il tient entre ses mains, le labeur accompli et, à travers lui, toute la condition et toute la destinée des êtres humains. Lorsque nous proclamons dans le symbole des apôtres et dans le symbole de Nicée-Constantinople que le Fils unique de Dieu, né de lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né de vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, par qui tout a été fait, pour nous les hommes et pour notre salut, est descendu du ciel, a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Oui, nous proclamons là un élément essentiel et central de notre foi. Un élément qui distingue cette foi de sa source juive et de la foi musulmane. Pour les chrétiens, en Jésus, il n'y a pas seulement un personnage historique à la pensée élevée, un sage comme l'humanité emporte peu en elle, un remarquable prophète dont l'enseignement est encore bien utile aujourd'hui. Pour les chrétiens, en Jésus, il y a vraiment Dieu né de Dieu. L'annonce de ce que la théologie nomme incarnation ne laisse pas de surprendre et même de choquer. Comment le Dieu éternel et véritable, le Dieu par qui tout a été créé, les univers visibles et invisibles, comment ce Dieu indicible, indescriptible, a-t-il consenti à se dire, à se laisser décrire en prenant un visage authentiquement humain? Et pourquoi est-ce en ce personnage-là, contingenté dans l'histoire des hommes, qu'il s'est incarné? Pourquoi pas dans un autre? Et comment une destinée humaine, évidemment marquée par toutes les limites que nous savons bien, d'espace et de temps, de sexe, un homme et pas une femme, de culture, voire même de religion, peut-elle avoir la prétention d'affirmer qu'en elle, le Dieu tout-puissant et universel se raconte et se donne à voir? Lorsqu'on évoque l'incarnation de Dieu, il ne faut pas cesser d'être surpris. Et cet accompagnement nous accompagne tandis que nous déclinons les conséquences de cette affirmation centrale. Rappelons-le, cette affirmation qui est décisive dans la foi chrétienne. La première conséquence, si je veux connaître quelque chose de Dieu, je dois désormais suivre Jésus, l'écouter, le regarder, le laisser me dire qui est Dieu. Ce ne sera pas une leçon qu'il m'enseignera de l'extérieur. Tout en lui est Dieu. Mieux, si je veux m'unir à Dieu dans la vie spirituelle, pas d'autre voie que m'unir à lui, à ce Jésus, fils de charpentier. La spiritualité chrétienne trouve ici l'un de ses traits distinctifs. Nombreux sont les auteurs mystiques qui, décrivant leur vie intérieure, la donnent pour une incarnation continuée. De même, dirent-ils, que l'Esprit a fécondé une fois dans l'histoire le sein de la Vierge Marie, de même continue-t-il à féconder le cœur de celui qui veut bien l'accueillir, de même continue-t-il à enfanter en lui le Verbe de Dieu. La prière chrétienne trouve son point d'ancrage véritable et particulier dans cette attention portée à la naissance de Dieu en l'homme, pour reprendre une formidable expression de Martin Eckhart, le grand dominicain du XVIe siècle, la naissance de Dieu en l'homme. Une autre conséquence est qu'on ne trouve pas Dieu en s'échappant de ce monde-ci, aussi gris soit-il, s'il est vrai que Dieu a voulu nous rejoindre jusque dans les bassesses de la condition humaine, c'est que celle-ci ne doit pas être finie. S'enfoncer dans les contingences de la vie, dans les questions sociales, de répartition des biens, de justice distributive, de solidarité, de soins apportés à l'autre en souffrance, d'accueil de l'étranger, etc. Ce n'est pas ignorer la vie spirituelle. Pour un chrétien, au contraire, là est le lieu de l'intériorité véritable, le lieu où la vie de prière se vérifie et où elle devient vraie. Et cela, quel que soit l'état de vie des uns et des autres, que l'on soit moine ou marié, jeune ou vieux, prêtre ou laïc. N'était-ce pas, du reste, l'enseignement de Jésus lui-même, au dire de l'évangile de Matthieu, « J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. » Alors que Jésus lui-même s'assimilait, tout roi du jugement dernier qu'il est, au plus petit de ses frères, dans le pauvre quotidien de notre ici-bas. Il est encore un autre émerveillement qu'il faut signaler si l'on s'interroge sur l'incarnation de Dieu en Jésus. Il vient de sa raison. Pourquoi ? Cur Deus homo, demandait la scolastique médiévale, et en particulier saint Anselme. Pourquoi Dieu s'est-il fait homme ? Chers auditeurs, chères auditrices, la question est posée à chacune et chacun d'entre vous. Quelle réponse donnez-vous par votre vie ? Pourquoi Dieu s'est-il fait homme ? Est-ce que cette réponse sera celle de la prise de conscience de votre humanité qui doit s'épanouir, se développer de mois en mois tout au long d'une vie, que cette vie se développe même au temps de la vieillesse, au temps de la perte de certaines forces, s'épanouir dans cette vérité que nous portons, devenir Dieu par toute notre existence.